Ndinga News, tout de suite le journal. Le journal sur Ndinga News.
Ndinga News, le journal.
Vous êtes sur Ndinga News FM. Il est l'heure de vous informer. James Katoto est à la présentation de cette édition du journal. La mise en onde est assurée par Fabien Kibangula. Les titres. Plus de 4 268 ménages touchés par les conflits armés et d'autres situations de violence sur axe Kakinga, Mayanga, sur la route Bendera ont été assistés par la CICR du 24 octobre dernier au 8 novembre 2022. Cette organisation fait savoir que l'assistance avait pour cible les familles déplacées, retournées et résidentes à Bendera. Amoury Aleka nous en dira plus. L'évêque du diocèse de Kindu encourage les fidèles catholiques de sa juridiction à participer massivement à la marche pacifique prévue le 4 décembre prochain pour soutenir les FARDC et protester contre les agressions des M23 soutenues par le Rwanda. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous. Ouvrons ce journal dans le chapitre politique. Élisée Kaosi, candidat malheureux aux élections de gouverneur de 2022 au Tanganyika, est sorti de son silence au sujet de plusieurs points de la vie de la population du Tanganyika. Dans son tweet de ce lundi, cet acteur politique et notable du Tanganyika dit, je cite, « Si nous nous sommes battus pour faire partir Zoé Kabila dans le but d'avoir ce genre de gouvernance au Tanganyika, alors nous avons fait une grosse bêtise. » Fin de citation. Selon Élisée Kaosi, la multiplicité des taxes dans la province ne permet pas à la population d'avoir un train de vie normal. Il a été joint au téléphone depuis la ville de Kinshasa par Fouraïcha Makangila Zabloni.
Aujourd'hui, c'est un secret pour personne qu'il y a une augmentation des taxes au niveau du port de Kalimi. Alors moi, je trouve ça quand même insensé. Connaissant la conjoncture actuelle du pays, connaissant les activités économiques assez faibles dans Tanganyika, on ne peut pas aujourd'hui prendre le risque d'asphyxier par un harcèlement fiscal les acteurs économiques, les opérateurs économiques, parce que cela aujourd'hui a une conséquence dans les tarifs alimentaires qui ont augmenté à Kalimi, et cela se répercute négativement dans les ménages. Et ce n'est pas du tout acceptable. J'aimerais savoir quel est l'objectif de l'augmentation de ces taxes. Est-ce que le Parlement a été consulté? Est-ce que la population, par certains voies et moyens, certains canaux, ont été consultés au préalable avant d'augmenter ces taxes, ou je veux dire de créer des taxes? Et je suis curieux aussi concernant ce qu'on appelle le projet de développement socio-économique du gouvernement, parce que cela nous permettra en fait de savoir à quoi est destiné, à quoi est destiné les revenus, à quoi sont destinés les revenus de ces taxes. Il est tout à fait anormal de se lever un matin et demander à ce qu'on crée ou on augmente des taxes, sachant que cela aura une répercussion dans les denrées alimentaires.
Mais c'est quand même, c'est pas ces taxes qu'on va développer la province. La province est développée par des taxes.
Oui, mais les taxes, on n'impose pas les taxes n'importe comment. Je crois que le prédécesseur a tout fait pour annuler certaines taxes. Je me rappelle encore, si je ne me trompe pas, il y a eu une taxe par rapport au ciment ou par rapport à la logique. Sous Zoé, une taxe par rapport au ciment. Je ne me rappelle plus exactement de quelle taxe il s'agissait. Mais le gouverneur précédent n'a pas hésité à annuler cette taxe-là, parce que cela avait un impact négatif sur les opérateurs économiques dans le secteur de la cimenterie.
Plusieurs maisons dans différents quartiers de la ville de Kalimi ont été la cible de voleurs en armes blanches. Par exemple, au quartier Kituku, plus de 5 maisons ont été visitées, notamment sur les avenues Ewabora, Atriko et Amakutano, et du côté des Kankomba. Les voleurs ont réussi à emporter plus de 700 000 francs congolais, des téléphones portables sur l'avenue Makutano. Et du côté des Triko, une femme a été blessée par des coups de machette de ses malfrats. Ils ont emporté avec eux un smartphone et une somme importante d'argent. Les victimes appellent les autorités provinciales à renforcer plus la sécurité dans la ville de Kalimi. Écoutons tour à tour les victimes au micro de Sylvie Makoy et Vivian Nyota.
C'est aux environs des ZRR qu'ils avaient commencé avec notre voisin. Et après, j'avais entendu dans la maison de ma mère le cri. Et je suis sortie de ma maison pour aller voir ce qui était arrivé à ma mère. Juste à mon entrée, ils m'ont poussé et m'ont administré les coups de machette à l'avant-bras. Ces voleurs étaient au nombre des trois. Après leurs opérations, ils étaient partis. Quand Zoé était là, il n'y avait pas beaucoup de problèmes comme ça. Dire que là, on a volé ou on a tué, ça n'existait pas. Ils sont venus à 23h, ils m'ont dit de leur donner l'argent. Et j'avais répondu que je n'ai pas l'argent. Et ils m'ont dit, si je ne donne pas l'argent, ils vont me tuer. Et quand j'avais insisté que je n'ai pas l'argent, ils m'ont administré les coups de machette au cou et ils sont partis. Ils avaient emporté un téléphone Android et une somme d'argent qui était sur la table. Nous demandons seulement à notre gouvernement de nous envoyer aussi le patrouilleur comme dans d'autres quartiers pour notre bien-être social.
Vous écoutez Ndenga News sur 104.0 MHz, votre radio de proximité. Kabalo, Kalemi, Kongolo, Manono, Moba, Nyunzu et partout en République démocratique du Congo. Voici votre chaîne d'information.
Autre actualité à présent, plus de 4268 ménages touchés par les conflits armés et d'autres situations de violence sur Axe Kakinga, Mayaga, sur la route Bendera, en territoire d'Ekalemi, ont été assistés par la CICR du 24 octobre dernier au 8 novembre 2022. Cette aide était composée de vivres et des semences pour permettre la survie des personnes en situation difficile. Dans son communiqué de ce 14 novembre, la CICR fait savoir que cette assistance avait pour cible les familles déplacées, retournées et résidentes à Bendera. Plus de précisions dans ce reportage d'Amoury Aleka Bin Alexandre.
Cette assistance du Comité international de la Croix-Rouge a été organisée en collaboration avec la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo et cela en fonction des besoins des familles se trouvant sur Axe Kankinga et Mayanga sur la route de Bendera dans le territoire des Kalemi. Selon le communiqué du CICR, cette organisation humanitaire a indiqué que sur les 4628 bénéficiaires, 3847 ménages résidents ont reçu chacun une ration alimentaire et des semences. Le communiqué souligne que les vivres sont composés de farine de maïs, de haricots, de l'huile végétale et du sel, alors que les semences proviennent de maïs et des amarantes. Selon toujours le même communiqué, 421 familles déplacées et retournées ont reçu à leur tour des biens essentiels de ménage et de la nourriture. Nous leur avons donné de vivres pour répondre à leurs besoins immédiats, a expliqué Maya El Hadj, chef de la sous-délégation du Comité international de la Croix-Rouge CICR Academy. Elle a aussi fait savoir que les semences leur permettront de relancer à moyen terme la production agricole et de se relever des effets de l'insécurité alimentaire. C'est depuis 2017 que la région de Bendera est en proie aux violences des conflits armés à répétition. Cette situation entraîne des déplacements réactifs et préventifs des populations civiles, ainsi qu'une vulnérabilité accrue des communautés en raison de pertes de leurs biens.
À Moba, le taux de fréquentation des femmes enceintes à la consultation prénatale est très faible dans plusieurs aires de santé de ces territoires. Ce constat a été fait la semaine dernière par le médecin chef de zone de santé de Moba après sa visite dans différentes structures sanitaires de sa juridiction. Cette information est aussi confirmée par les infirmiers titulaires. Selon eux, la majorité des femmes enceintes participent uniquement à la première CPN. Dans un entretien accordé à la radio Ndenga News FM samedi dernier, Dr Barwin Momat, médecin chef de zone de santé de Moba, exhorte aux femmes enceintes d'aller massivement participer à la consultation prénatale. On l'écoute dans ses propos recueillis par Brett Kisimba.
Et nous l'avons aussi constaté que les femmes, ou bien ce qu'on appelle les gestantes, elles ont quand même une mauvaise habitude. Nous constatons qu'elles fréquentent souvent les séances de CPN avec retard. C'est pourquoi quand vous constatez la CPN à la 16e semaine, c'est une séance qui souffre vraiment. Nous avons un taux très bas pour la zone de santé de Moba, puisque pour une femme qui a une grossesse, elle doit au moins fréquenter la CPN même 4 fois. Il y a ce qu'on appelle la première CPN. Là, c'est pour confirmer d'abord s'il y a la grossesse. C'est ça l'avantage ou bien le but de la première consultation prénatale. À part ça, il y a les consultations intermédiaires. Les consultations intermédiaires, ça peut être la deuxième, la troisième, même la quatrième. Ça dépend d'une femme à une autre. Puisqu'il y a les femmes, selon l'état, l'état ou bien selon les pathologies qu'on a décelées, on peut les consulter même après chaque 2 semaines pour suivre l'évolution. Et ces consultations intermédiaires ont pour but de voir l'évolution de la grossesse, comment sa grossesse est en train d'évoluer. S'il y a les pathologies qui pourront compromettre la bonne évolution de la grossesse, là, nous traitons ça. C'est pourquoi nous appelons toutes les gestantes, vraiment, c'est mieux de consulter les structures afin de déceler certaines pathologies ou bien certains facteurs qui peuvent être à la base de compromettre la bonne évolution de la grossesse.
Au total, 11 médecins ont prêté serment d'Hippocrate le week-end dernier dans la province de l'Omami. Issus des universités déclarées non viables, ces hommes en blouse blanche ont été d'abord confrontés à un test avant leur admission, a laissé entendre Dr Riban Mutamba, le numéro 1 du Conseil provincial de l'Ordre des médecins l'Omami. D'autres précisions avec Sylvain Fizemukadi.
J'exercerai ma profession avec conscience et dignité, dans le respect des bonnes pratiques médicales.
La cérémonie de leur prestation de serment s'est déroulée concomitamment à Mouéné Ditou et à Kabinda, chef-lieu de la province de l'Omami, devant les comités directeurs du Conseil provincial de l'Ordre de médecins qui a pris acte de leur serment. En présence du ministre provincial de la Santé, Dr Jean-Baptiste Mbouichihata, et du chef de division provinciale de la Santé, Dr Fred Boulobo, les assermentés se sont engagés à faire de l'art de guérir leur apostolat. Selon les serments d'Hippocrate,
j'ai fait ces promesses sur mon honneur, solennellement, librement.
Le numéro 1 du Conseil provincial de l'Ordre de médecins de l'Omami, qui a pris acte de leur prestation de serment, a non seulement présenté ses félicitations à ses futurs médecins, mais il a aussi saisi l'opportunité pour leur prodiguer des conseils utiles pour toute leur carrière. Docteur Ruben Mutamba.
Prenons acte de votre prestation de serment de médecin en qualité de médecin. Nos très sincères félicitations.
Nous n'avons pas d'autre mission que celles qui sont édictées par la loi. Nous citons l'ordonnance créant l'ordre de médecins. Tel que vous présentez dans notre discours programme, nous l'avons dit, les missions de l'ordre de médecins sont de veiller au principe de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la profession médicale, à l'observance par tous ses membres de devoirs professionnels et des règles de la déontologie médicale. C'est l'article 2 de la loi créant l'ordre de médecins.
Ici est de signaler qu'avec cet ajout de 11 médecins, le Conseil provincial de l'Ordre de médecins de l'Omami compte à ce jour 340 hommes en blouse blanche éparpillés sur l'ensemble de la province. Je suis Sylvain Fizemukadi depuis la Lomami pour Ndenga News FM.
Branchez-vous sur Ndenga News sur 104.0 MHz, la référence de l'information.
Dans le cadre de renforcer le processus de la paix, le président de l'Assemblée nationale de la RDC, Christophe Mboso, a fixé les limites de pourparlers avec Uhuru Kenyatta, accompagné par les membres du bureau. Ce 14 novembre, le speaker de la Chambre basse du Parlement a répondu à l'appel de l'ancien président Kenya, désigné facilitateur de la communauté de l'Afrique de l'Est, en visite de consultation avec les acteurs politiques congolais, la société civile et les leader des communautés locales. Les propos de Christophe Mboso, président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, ont été recueillis par Guillaume Goyamissi.
Nous avons d'abord remercié le président Uhuru Kenyatta pour avoir accepté cette mission délicate de facilitation. Nous sommes venus répondre à l'appel de la paix. Il a pris cette charge pour essayer de ramener la paix avec le concours de tous les hommes de bonne volonté. Eh bien, nous sommes venus répondre. Nous sommes venus lui dire ce que nous pensons pour que la paix revienne d'une manière durable et définitive en République démocratique du Congo. Le peuple congolais, c'est un peuple pacifique. Le peuple congolais veut vivre en paix, en fraternité avec tous les États voisins. Ce que nous lui avons dit reste entre lui et nous.
Et quelles sont vos attentes?
nos attentes, c'est la paix. L'M23, c'est un groupe terroriste. On ne négocie pas avec les terroristes. Alors, s'il faut négocier avec les terroristes, il faut poser des conditions.
Merci beaucoup.
Déposer les armes, quitter les territoires occupés illégalement.
Au Maniema, pour terminer, l'évêque du diocèse de Kindu encourage les fidèles catholiques de sa juridiction à participer massivement à la marche pacifique prévue le 4 décembre prochain pour soutenir les FARDC et protester contre les agressions des M23 soutenues par le Rwanda. Monseigneur François Abelimu Oya l'a déclaré lors d'une interview accordée à la presse de Kindu ce lundi. Pour cet homme des dieux, cette marche qui se tiendra sur toute l'étendue de la République est un geste qui exprime la colère de la population congolaise face à la guerre qui persiste au nord Kivu. L'évêque de Kindu invite par la même occasion les hommes dédiés à jeûner afin que cette journée aboutisse à l'objectif. Monseigneur François Abelimu Oya est au micro d'Arija Saïdi Ruth.
La marche prévue au 4 décembre prochain fait partie de toute une analyse d'une déclaration des évêques du Congo. Il me revient de préciser que du 7 au 9 novembre s'est tenue à Kinshasa une assemblée plénière extraordinaire de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Les évêques se sont réunis et ils ont pu procéder à une analyse enfouie et approfondie du paysage social mais surtout sécuritaire de notre pays. Ces analyses croisées aux informations dont dispose l'épiscopat congolais nous a amené à produire la déclaration qui a pour titre « L'heure est grave, notre pays est en danger ». Il convient que chaque Congolais se rende compte justement que le Congo est au bord du gouffre. Chaque fois nous avons entendu parler de guerre à l'Est, de rébellion, des attaques, mais il convient de savoir que cette fois-ci, ce n'est pas la même chose. La situation est critique par rapport à notre pays, par rapport à notre nation. Aujourd'hui, une bonne partie de notre pays est envahie, attaquée. Son intégrité territoriale a été violée par deux voisins bien connus, le Rwanda et l'Ouganda, mais même s'ils agitent de leur comparse, le M23. La première des choses pour nous qui sommes chrétiens, c'est de prier et de jeûner. Parce qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. C'est lui le premier général, le premier commandant. Demander au Seigneur la paix pour notre pays, pour notre nation. La deuxième des choses, que le jeûne puisse s'engager. Le chef de l'État l'a demandé à tous les jeunes.
C'est la fin de cette édition du journal qui a été présentée par James Katoto, mise en onde par Fabien Kibangula. La supervision de Paul Ilunga Boniface sous la coordination de Furaisha Makangila Zabuloni. L'actualité reste en continu sur nos antennes, mais aussi sur le www.radiondenganews.net. Merci de nous faire confiance. Votre fidélité nous honore. Au revoir.